1 Corinthiens, chapitre 10, chapitre 1, à partir du verset 10 au verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 17, au nom de Jésus. Frères, je vous le demande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, la même intention. En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des querelles parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous déclare quelque chose de différent. L'un déclare « Moi, j'appartiens à Paul », l'autre « Moi, Apollos », un autre encore « Moi, Pierre », et un autre « Et moi, au Christ ». Pensez-vous que le Christ soit divisé en plusieurs parties? Est-ce que Paul, qui est mort sur la croix pour vous, avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je remercie Dieu de ce que je n'ai pas baptisé aucun de vous, à part Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut affirmer que vous avez été baptisé en mon nom. Ah, c'est vrai, j'ai aussi baptisé la famille de Stéphanas, mais je ne me rappelle pas avoir baptisé encore quelqu'un d'autre. Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et l'annoncer sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. Amen. Nous venons de célébrer la semaine de l'unité des chrétiens dimanche passé dans le monde, ici à Namur aussi. Mais je vous assure, chers frères, le chemin est encore très long pour l'unité des chrétiens. En préparant cette méditation, j'ai vu une vidéo, j'en ai parlé hier lors de la formation du groupe des lecteurs, une vidéo assez choquante, mais qui montre bien encore que l'unité des chrétiens est encore un idéal assez difficile à atteindre. Montrant la cérémonie de confession de foi, quelqu'un qui s'est converti, un prêtre catholique qui a décidé de devenir un prêtre orthodoxe. Et je vous assure, le rite de passage qu'on lui a imposé, ce n'était pas une blague. Il fallait que la personne renie un par un tous les dogmes qu'il avait suivis et crus auparavant. Renies-tu tel dogme ? Oui, je le renie. Oui, je le renie. C'était hallucinant. Et à la fin même, on l'obligeait à genoux-toi devant Dieu maintenant. C'est comme si, avant, il n'était pas devant Dieu. Alors je me suis dit, alors, c'est pour quand que ça va réaliser la prière de Jésus dans Jean 17, 21 ? Je prie pour que tout soit un. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura qu'une seule dénomination d'église. C'est pas ça, c'est une utopie. Il ne faut pas rêver, car déjà, dès le début de l'histoire de l'Église, et on vient de le lire, il n'y avait pas qu'une seule Église, comme on nous l'a fait croire. Il y avait plusieurs courants. Alors, c'est quoi l'unité? Alors, si c'est le cas, pourquoi Paul, alors, fait-il cette recommandation s'il est conscient de la réalité? Le problème, c'est que la dispute ne mène à rien. La dispute n'aboutit qu'au désordre. Paul ici est conscient et admet qu'il a plusieurs ministères au sein de l'Église, et je mets l'Église grand E. Lui, par exemple, il se dit qu'il ne fait pas partie des baptiseurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas pasteur, mais un docteur de l'Église, un enseignant. Et donc pour lui, respecter l'unité du corps de Christ, c'est d'accepter de rester à la place que Dieu l'a mis pour chaque serviteur. Paul n'a pas de prétention d'être au-dessus de Pierre, qui était pasteur. Il était que docteur. Pierre, il était pasteur. Ou au-dessus des autres frères. Au contraire, si nous suivons bien l'argumentation de Paul ici, il ne touche pas le ministère des autres. Il prend sa propre personne en cobaye. Exemple dit, est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce le nom de Paul que vous avez reçu comme baptême ? Donc si on change la tournure de sa phrase, c'est comme s'il disait « Oubliez-moi, je ne suis pas important, ce n'est pas mon nom ni ma personne qu'il faut suivre, c'est le Christ. » Vous savez, chers amis, parfois il existe des serviteurs de Dieu qui ont un grand charisme, mais à la fin, à cause de leur charisme, ils cachent la gloire de Dieu. C'est un charisme qui vient de Dieu, hein. C'est pas un faux prophète. C'est un vrai prophète, c'est un vrai serviteur de Dieu, mais tellement son charisme est énorme que son charisme lui-même cache Dieu. Tellement son charisme prend une telle place que parfois les gens ne voient plus que lui. C'est lui qui est l'envoyé. On ne voit plus le Christ. Imaginez une personne, si on lui donne tous les dons spirituels qui puissent exister. Je vous dis, il est impossible pour un être humain normal de supporter tous les dons. Et même le grand Paul, il s'était rendu compte que si le Christ ne lui a pas accordé ce qu'il demandait, rappelez-vous, il avait demandé, j'ai prié 3 fois pour qu'on m'enlève ce problème, on ne sait pas de quoi il s'agit, c'était un problème de santé ou autre chose, on verra plus tard, peu importe, mais l'essentiel, c'est qu'il a compris le message. Il disait lui-même, « Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. » Même le diable est un pion dans les mains de Dieu pour stopper l'orgueil d'un serviteur de Dieu. Ça fait un peu bizarre d'entendre ça. Et cette phrase, ce n'est pas le Christ qui l'a dit. Ce que Jésus lui avait dit, « Paul, ma grâce te suffit. » Jésus n'a pas dit tout ça. Hein. Relisez ce texte. Jésus n'a rien dit, il a dit juste « Ma grâce te suffit, Paul. » Mais après avoir entendu cette parole de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé dans sa tête et lui apporte un éclaircissement au plus clair, d'où il a pu lui-même en tirer une conclusion qui est assez juste. Il a remercié Dieu après. Merci, parce que cette souffrance que tu me donnes, finalement, est une bénédiction pour que je ne tombe pas dans l'orgueil. Il est trop facile de dire « à Dieu seul la gloire hein, » quand on fait quelque chose. « Ah oui, j'ai fait ça, mais à Dieu seul la gloire. » C'est juste une formule, solideo gloria. Pourtant, on aimerait trop se partager la gloire de Dieu, non? Et même dans son allocution, Paul se met au rang inférieur par rapport aux 2 personnes citées, Pierre et Apollos. En matière de charisme, parce que Paul, dans sa façon de parler, me semble-t-il faire une allusion justement sur une qualité qu'il n'a pas par rapport à Apollos. Apollos, lui, au verset 17, lorsqu'il dit au verset 17, « Pour annoncer la bonne nouvelle, non pas dans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens. » Donc, s'il faut lire entre les lignes à ce qu'on sait d'Apollos, à travers les textes des Actes des Apôtres, ce serviteur de Dieu était quelqu'un de très éloquent et Paul ne l'était pas. Paul avait un problème. Paul, au contraire, selon les spécialistes des épîtres pauliniennes, il souffrait de bégaiement, Paul. Oui. Et c'est ça qu'il demandait à Dieu, enlève-moi ça. Si tu m'enlèves ça, je pourrais être plus productif. Mais Jésus a dit, ma grâce te suffit, c'est bien que tu sois dans ce problème pour que tu ne te enfles pas d'orgueil. Et donc, à un certain moment, Paul, quand il regardait Apollos, si j'avais cette facilité d'Apollos, oh Seigneur, je pourrais être plus efficace. Mais Jésus a dit, non, ma grâce te suffit. Donc, il est fort probable que Paul avait tellement supplié à Jésus pour qu'on puisse lui enlever ce problème. Mais la réponse est claire. En d'autres termes, la grâce de Dieu est suffisante. Elle opère toute seule. La parole n'est juste qu'un moyen de grâce. ma voix ici, la prédication, le journal qu'on utilise, la musique n'est qu'un moyen de grâce, mais la grâce, elle est suffisante. Elle n'a pas besoin de notre aide pour être efficace. Parce que parfois on croit, oui, parce qu'il y a une bonne musique, parce que le journal est vraiment au top, parce que le site il est bien fait. Oui, peut-être, mais ce n'est pas ça qui change les cœurs des gens. C'est la grâce. Ça peut épater les gens, ça peut impressionner, mais ça ne change pas les cœurs. Vous voyez la différence ? Et c'est pour cela qu'il souligne bien au verset 17, « Afin que la croix du Christ, » j'aime bien cette version-là dans la NBS, « Afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens. » Je me suis dit, alors parfois les moyens qu'on utiliserait, on croyait bien faire, mais ce moyen-là, au contraire, il a vidé le sens de la croix. On croyait bien faire pour mettre en valeur la croix, finalement on a cacher la croix. Et c'est ça qui fait peur. Qu'est-ce que les gens retiennent quand ils rentrent chez eux ? Est-ce la musique ? Est-ce la bonne ambiance ? Est-ce la fraternité ? Ou est-ce la parole de Jésus ? C'est une bonne question. C'est toujours un défi tous les dimanches d'arriver à cet objectif-là. Ce que Paul essaie de nous faire comprendre, c'est que parfois nos mots si bien structuré avec une qualité rhétorique, parfois à un effet contraire de ce que l'on espérait. Il parle ici de vider le sens de la croix. Vider le sens de la croix. Quand il s'agit de la croix de Jésus, la croix que vous voyez là ici, elle n'a pas besoin qu'on l'embellisse. Au contraire, plus on essaie de l'embellir pour la faire passer, plus nous vidons son sens. Lors des 500 ans de la réforme de Luther, rappelez-vous, ceux qui étaient déjà ici dans la communauté, est-ce que vous vous rappelez de la couleur ? On avait parlé de la rose de Luther. Quelle était la couleur de la croix au centre de la rose, ceux qui étaient là ? Hein ? C'était quoi la couleur de la croix au milieu de la rose de Luther ? Noir vive. Ce choix de couleur est fait exprès pour dire que cette noirceur nous rappelle que le prix à payer pour tes péchés était si cher. Cela a coûté à la vie du Fils de Dieu. Donc, n'essayons pas de l'embellir, cette croix. Cette croix, elle est maudite parce que le Fils de Dieu a perdu sa vie là. Ne vidons pas ce sens de la croix. N'essayons pas de l'embellir. Gardons ce sens original de la croix. Et donc pour Paul, c'est complètement idiot, c'est le mot. Le fait de voir des personnes qui se déchirent et qui se chamaillent pour savoir qui est le meilleur, Paul, Pierre ou Apollos. Vous êtes tous hors sujet, dit Paul. Pour lui, celui qui met en avant Pierre, celui qui met en avant Paul ou Apollos ou autres sont des usurpateurs parce que ce ne sont pas eux qui ont lourdement payé le prix de notre liberté et de notre salut. C'est ce qu'il a dit. Est-ce Paul qui est mort pour vous ? Alors finalement, l'humilité, c'est reconnaître que l'efficacité du message de la croix ne dépend en aucune manière de la personne qui parle. Le rôle des serviteurs de Dieu est simple, juste indiquer tout simplement la croix et de la laisser interpeller les gens. C'est elle qui interpelle les gens. Rappelons-nous de la scène à Golgotha. Que se passe-t-il ce jour-là, à Golgotha ? Tout à coup, le ciel s'est assombri. Il faisait noir. Le rideau dans le temple s'est déchiré en deux. Donc il n'y avait plus le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait un tremblement de terre. Quelques morts de Jérusalem étaient revenus à la vie. C'était la scène à Golgotha. Le brigand à la droite de Jésus, tout à coup il s'est repenti. Rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et enfin, avant que Jésus donnât son dernier souffle, le soldat romain au pied de la croix, face à l'agonie du Fils de Dieu, a fait une confession de foi époustouflante. Il est vraiment le Fils de Dieu. Vous voyez la force de la croix ? C'était le moment de silence. C'est le moment de la honte. Pourtant, la croix fait vibrer. La croix change. La croix redonne la vie. La croix pousse les gens à faire une confession de foi. Ça, c'est la force de la croix. Sans aucune intervention humaine. Et en voyant toutes ces choses, nous pouvons dire que la croix a un pouvoir extraordinaire qui change les cœurs de l'homme qu'on croit être le plus dur. Il n'y a pas plus dur qu'un centurion romain, je vous assure. Mais le cœur de ce romain était ébranlé ce jour-là. Elle n'a pas besoin de notre langage pour être efficace, la croix de Jésus. Si elle a su faire parler le centurion à Golgotha, si la croix a fait tomber Paul de son cheval, c'est qu'elle dégage une force inimaginable, cette croix. En la regardant comme ça, extérieurement, nous pensons qu'elle n'est rien du tout, cette croix. Peut-être synonyme de lamentation, de peine, de larmes, de honte. Oui, de honte. Mais avec force et conviction, n'hésite pas à crier haut et fort. C'est sans honte, en effet, que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Si vous êtes ici, c'est parce que c'est cette croix-là qui vous a fait lever de votre lit, qui vous a fait venir ici. Ça, c'est la force de la croix. Paul, s'il est arrivé à la foi, ce n'est pas à cause de l'enseignement d'un apôtre. Personne n'a prêché à Paul, ou d'un apôtre, une exhortation qu'il a entendue. Non, si Paul est arrivé à la foi, c'est à cause de la croix. Le message est clair alors, pour moi, pour toi, si Dieu nous utilise pour prêcher sa parole, c'est pour être témoin de la force de cette croix qui change les cœurs des hommes. Et nous ne faisons qu'admirer son pouvoir. Et un peu plus bas, dans le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, montrant que la force de Dieu se situe dans ce que le monde pense être une folie, et non dans de belles paroles. Et il dit, en effet, puisque le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Que la gloire du Seigneur soit toujours exaltée. Amen. Thank you.